I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il a commencé la vie en mettant KO son propre père qui était violent et alcoolique. Il l'a continué en vendant des drogues dures et des stéroïdes et en devenant son propre homme de main. Il allait réclamer les dettes lui-même à ceux qui ne payaient pas. Il l'a continué encore ensuite en devenant combattant professionnel. Il a affronté Anderson Silva et il a même été jusqu'à l'UFC. Et ensuite, il a été le cerveau d'un des plus gros, du plus gros braquage de l'histoire de la Grande-Bretagne, où il a dérobé avec son gang 53 millions de livres. C'est une légende urbaine, et pourtant il est bien réel. C'est quelqu'un qui, s'il était un personnage d'un film de Guy Ritchie, on y croirait à peine, et pourtant tout ce qu'on va vous dire est réel. C'est l'histoire de Lee Murray. On va la découper en trois parties. Une sur son enfance pour comprendre comment il est devenu, qui il est devenu. La deuxième sur sa carrière de combattant. Et la troisième sur le braquage du dépôt Securitas. On vous raconte tout ça tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter notre sponsor sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, NordVPN. Un VPN, c'est quoi ? C'est un service qui vous permet de protéger votre confidentialité en ligne en créant un tunnel crypté pour vos données. Ça masque votre adresse IP et ça vous permet de vous connecter à des serveurs distants un peu partout dans le monde selon votre convenance et selon ce que vous voulez faire. Donc ça veut dire, par exemple, dans mon cas, de regarder des vidéos sur Twitter de l'UFC, des vidéos de KO, etc., auxquelles parfois j'ai pas accès parce qu'on est en France. Pareil pour les documentaires de la BBC de Louis Theroux que je vous recommande, ou alors si comme Polydomso vous voulez regarder des petites vidéos olé olé, mais que vous êtes sur un autre continent. NordVPN peut être utilisé sur 6 appareils en même temps. Allez sur nordvpn.com/lasueur ou utilisez le code promo LASUEUR pour avoir 70% de réduction sur le plan de 2 ans de NordVPN avec un mois gratuit, ce qui fait des mois à 2,85€. Vous avez 30 jours pour lesquels vous pouvez être satisfait ou remboursé. Il y a un service client de 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui est en français également. Merci à NordVPN, et c'est parti pour l'histoire hallucinante de Lee Murray. Let's go. Ça part d'une enfance qui est assez triste. Sa maman est d'abord coiffeuse, puis ensuite standardiste. Son papa est marocain, et il vit au Maroc, en fait. Donc, ses parents se rencontrent sur les îles Canaries alors qu'ils sont tous les deux en vacances. Sa maman, londonienne, rencontre Brahim Lamrani aux îles Canaries. Et du coup, ils ont un enfant, ils ont Lee Murray et leur fille Rkia. Mais les 7 premières années de la vie de Lee Murray, son père est absent, puisque du coup, il continue à être aide en cuisine au Maroc. Et du coup, les 7 premières années de la vie de Lee Murray, c'est sa maman qui s'occupe de lui, c'est sa maman qui s'occupe de son éducation, comme elle le peut. Évidemment, sans un père, Lee Murray a une enfance qui est très agitée, d'autant plus qu'il vit dans un quartier qui est extrêmement chaud de l'East London. Il fait les 400 coups, c'est un quartier, le quartier dans lequel il vit, qui est connu pour être un petit peu le terreau de criminels en puissance et de braqueurs en puissance. Donc il naît dans ce terrain-là, dans ce terreau-là, les premières années de sa vie. Alors qu'il a 7 ans, son père, donc Brahim, peut venir rejoindre la famille en Angleterre. Donc à partir de 84-85, le père est là, mais le problème c'est qu'il est très violent et souvent saoul. Et il frappe ses enfants, il frappe Lee Murray. Et en fait, ça va s'escalader. Ça va s'escalader parce que à un moment donné, Lee Murray va en avoir marre. Donc il va en avoir marre de se faire frapper, marre de se faire insulter, rabrouer, humilier. Et en fait, au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à emmagasiner un peu de haine, beaucoup de haine envers son père, qui à un moment explose. Et en fait, c'est un voisin qui décrit la situation, il dit « Et un jour, le père de Lee Murray, comme à son habitude, apostrophe violemment Lee, et Lee en a marre, il se retourne à un moment donné, il décoche une droite et il met KO son père. KO direct, immédiat. » Et en fait, à partir de là, les relations vont encore plus s'envenimer, maintenant que Lee Murray, en fait, sait qu'il peut tenir tête à son père et qu'il n'est plus obligé de subir seulement. Et en fait, c'est le père, c'est Brahim, qui va être obligé de sortir de la maison. Donc c'est lui, le père, qui prend la décision de s'en aller parce qu'il avait peur pour sa propre vie. Donc, comme année formatrice, il y a plus joyeux, il y a plus cool en fait. Hein. Clairement, on comprend que ce soit sa vie à l'extérieur turbulente avec ses amis ou la vie au sein du foyer familial, c'était pas équilibré, ça pouvait pas donner quelque chose d'équilibré. Et ça va se confirmer puisque du coup, en fait, Limeray, la manière dont il grandit, il est renvoyé de plusieurs écoles. Il se fait des amis qui deviendront ses partenaires de crime plus tard dans sa vie. Il commence à faire de l'argent avec des deals de drogue, des deals de stéroïdes. Ça devient vraiment un nom dans le voisinage dans lequel il officie, en fait. Et il se fait un nom en tant que quelqu'un de vraiment très dangereux, imprévisible, et avec lequel il faut vraiment, vraiment, vraiment pas chercher, en fait. À tel point que même les policiers disaient de lui à l'époque, on essayait de vraiment pas trop faire de vagues, parce qu'avec Limeray, ça pouvait très mal finir. Il y a même des histoires qui racontent que Limeray poursuivait lui-même des policiers dans leur voiture de fonction, en fait. C'est-à-dire que y a des moments où Limeray, qui avait visiblement une aversion pour les forces de l'ordre, les poursuivait lui-même en les insultant dans leur propre voiture de police, en fait. Et les policiers préféraient dire « On préfère ne pas sortir et pas faire de vagues parce qu'avec lui, ça va dégénérer, en fait. » Ça vous donne un peu une idée de comment est-ce que les gens ressentaient le contact avec Limeray. Le mec était fou, en fait. Ça, ce sera donc sa jeunesse. Il va se faire pas mal d'argent avec les deals. Il va se faire pas mal d'ennemis aussi. Mais il continue comme ça de vivre sa vie. Il continue en tant que ce qu'on appelle en anglais « enforcer ». Alors, je ne sais pas quel est le terme français exact. Mais Lee va apprécier particulièrement les côtés violents des deals de drogue, dans le sens, il va particulièrement apprécier tout ce qui est faire respecter le territoire et aller demander de l'argent et aller réclamer les dettes, en fait. Et évidemment, donc, quand on dit ça, c'est de manière violente. Et il y a d'ailleurs un passage qui est assez représentatif de Limeray, parce que c'est lui-même qui dit à propos de cette période-là, on pouvait très bien croire que j'étais ce qu'on appelle un bully dans le terme anglais du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui va intimider, quelqu'un qui va impressionner, qui va de manière violente essayer d'humilier des camarades de classe, parce que c'est généralement comme ça qu'on parle de bullying, mais ça peut très bien être des gens de la vie ordinaire. Mais il disait, Limeray, moi j'étais pas un bully, parce qu'un bully c'est quelqu'un qui s'attaque à plus faible que lui. Moi je m'attaquais à tout le monde, et d'ailleurs généralement à des poids lourds. On est sur quelqu'un en fait qui... Il n'a pas vraiment la même échelle de risque et la même échelle de prise de risque dans sa vie que des êtres humains normaux. Il a été habitué à la violence depuis tellement petit que pour lui, c'est un langage qui est... Pour lui, c'est une seconde nature. Donc, c'est pas grave de s'en prendre à quelqu'un qui peut, théoriquement, qui a la carrure, qui peut te répondre et te mettre dans le mal. Parce que pour lui, il a l'habitude depuis tout petit avec son père, beaucoup plus grand, plus volumineux, plus massif, qui de toute façon le rouait de coups depuis sa plus tendre enfance. Donc ça, c'est l'enfance de Limeray, ça c'est l'adolescence, c'est les jeunes années de Limeray. Maintenant qu'on vous a dressé un petit peu le personnage de qui il était, on va passer au chapitre 2, sa carrière de combattant. À la base, il ne va s'entraîner dans des clubs de kickboxing et de MMA, enfin de sport de combat à Londres. Donc il est allé au Peacock's Gym et au London Shoot Fighters, qui ont produit énormément de très bons combattants à partir de Londres. Il n'y va que pour apprendre à se battre, pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir aller casser la figure à des gens sur lesquels il doit prendre sa revanche, en fait. Ou alors, de manière générale, pour ne pas être démuni quand il est dans une situation extrêmement chaude face à soit plusieurs, etc. Donc il veut apprendre la manière la plus efficace de combattre. Ça part comme ça, c'est pour ça qu'il y va, c'est dans cet objectif-là qu'il va dans cette gym-là à Londres. Et en fait, il se prend en jeu. Son caractère, sa personnalité extrêmement turbulente, très 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 sans chaud, va trouver une ligne directrice avec les sports de combat. Et en fait, à partir du moment où il va commencer, donc 98-99, à s'entraîner en MMA, dans les sports de combat, son rêve va changer. Son rêve, enfin il va surtout se construire un rêve en fait, parce qu'il n'en avait pas vraiment avant. Et son rêve va devenir champion UFC. Il va vouloir devenir le plus grand combattant de la planète. Et c'est assez intéressant parce que c'est un rêve qui va vraiment... On vous a décrit la personnalité qu'il avait, la personnalité extrêmement imprévisible, on sait jamais ce qui va arriver, le mec aura recours à la violence pour n'importe quoi, il n'hésite pas, il est... Enfin, de toute façon, Il le dit lui-même et tous les témoins qui ont participé au, comment dire, à la biographie de sa vie ensuite disaient de toute façon, lui, il a participé à littéralement des centaines de street fights. C'est ce qu'il savait faire de mieux en fait, que de combattre dans la rue à poings nus, etc. Mais à partir du moment où il va commencer à s'entraîner sérieusement et à partir du moment où ses entraîneurs vont voir qu'il a de telles facilités et un tel talent pour le combat, ben en fait, ils vont lui dire, tu peux vraiment aller très loin. T'as quelque chose dans les poings, t'as quelque chose dans ton mental qui fait que tu peux aller très loin si tu le veux. Et il va se prendre au jeu et il va vraiment essayer. Et à chaque fois qu'il sera dans un gym, en fait, et qu'il aura cette opportunité de s'améliorer, de devenir le meilleur combattant possible, et ben ça, il va le prendre vraiment très au sérieux. Et au point où, quelques temps après son entraînement, après le début de son entraînement, en fait, il va en 2000 décider qu'il a vraiment besoin de passer au niveau supérieur, et en particulier au niveau du combat au sol, au niveau du grappling. Et du coup, avec les économies qu'il s'est faites avec ses différents trafics, et ben en fait, il va partir aux États-Unis et à Bettendorf, dans l'Iowa particulièrement. Alors pour ceux qui connaissent, donc là, ce sont des noms qui sont un peu plus old school, mais ce sont des noms légendaires dans le monde des sports de combat. C'est le gym de Pat Miletich, il s'appelle, ancien champion welterweight de l'UFC. Et grâce à un contact, Limeray va donc prendre son baluchon et partir au camp d'entraînement de Pat Miletich. Il va donc rencontrer les combattants de cette écurie. Là, par contre, les noms, vous allez reconnaître. Matt Hughes, Robbie Lawler, Tim Sylvia, Jeremy Horn, Jens Pulver, que des champions ou anciens champions, à part peut-être Jeremy Horn, qui ont été au plus haut niveau des sports de combat et qui faisaient partie du gym de Pat Miletich. Pat Miletich, qui est donc, en plus d'être un ancien combattant de très haut niveau, est un des meilleurs entraîneurs que comptait la planète MMA à l'époque. Il va arriver avec son baluchon, Limeray. Il avait littéralement l'embrouille dans le sang en arrivant dans l'Iowa, à Bettendorf. Et pourtant, Pat Miletich dira à propos de Limeray, jamais un mot plus haut que l'autre quand il était dans l'Iowa avec nous. Jamais de problème, jamais rien, sage. Il était juste là pour s'entraîner, pour devenir la meilleure version de lui-même. Jamais eu de problème. Ce qui est quand même assez intéressant de noter, et c'est quelque chose qui, de toute façon, on le verra en fait, et même jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, disons, on le verra, pour lui, c'est tellement important ce rêve-là de devenir combattant pour lui, que c'est la seule chose qui le maintient et qui lui donne envie de rentrer dans le droit chemin. Alors maintenant, il y a sa famille également, mais c'est vous montrer à quel point pour lui c'était très sérieux. Et donc, dans l'Iowa, à Bettendorf, en fait, il s'entraîne et il commence à créer vraiment un très très gros niveau avec cette équipe de combattants. Alors, faut savoir qu'en plus, c'était bien tombé, puisque à Bettendorf, dans l'Iowa, dans le gym de Pat Miletich, c'est un mec à l'ancienne, très très à l'ancienne, dans le sens, quand vous arrivez dans son gym, en fait, si vous voulez devenir combattant pro, le seul moyen, c'est de passer dans ce que Pat Miletich appelle la « battle box ». Donc ce qu'on pourrait traduire en français par boîte à bagarre, mais ça le fait un petit peu moins. La battle box, c'est, si tu veux devenir combattant professionnel, tu penses que tu as ce qu'il faut, tu viens, tu rentres, tu spares dur, très dur, avec des combattants professionnels et des bons combattants de l'écurie de Pat Miletich. Et puis, si on voit que tu as du potentiel, tu peux rester. Évidemment, Limeray, de toute façon, qui avait l'habitude, des combats quasiment tous les jours et qui avait déjà un bon niveau, en particulier en stand-up, en striking avec ses poings, va faire partie des gars qui sont restés et qui sont acceptés à l'intérieur du gym de Pat Miletich. Il va progresser énormément, il va prendre énormément d'expérience aux côtés de ces grands champions et de ce grand entraîneur. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, même si Pat Miletich ne voulait pas de l'argent de Limeray, il voulait pas être payé, Pat Miletich, il voulait juste aider Limeray. Mais malgré tout, la vie là-bas coûtait de l'argent. Et Limeray a dû repartir au bout d'un moment, en fait, à Londres. Dégoûté, évidemment, il aurait voulu pouvoir rester le plus longtemps possible pour s'entraîner avec des gens pour qui il a gagné un énorme respect, Pat Miletich et les combattants de son gym. D'ailleurs, Robbie Lawler, en fait, lui-même, ne manquera pas de dire à propos de Limeray et de son talent de combattant particulièrement, quand Limeray frappait aux pattes d'ours, les gens arrêtaient ce qu'ils faisaient pour regarder ce qui se passait, tellement ça ressemblait à des bruits, en fait, d'armes automatiques. De toute façon, c'est son plus grand atout, en fait. À Limeray, c'est ses mains. Il a, si vous avez regardé sur sa page Wikipédia, en fait, il a un nombre de KO au premier round qui est assez impressionnant. Il y en a un, d'ailleurs, qui est au bout de 4 secondes, il me semble. Donc, c'était quelqu'un, d'ailleurs, qui était, son surnom vient de là, Lightning, qui était connu pour la rapidité et la férocité de ses poings, et l'efficacité, surtout. Il revient donc en Angleterre, après avoir passé plusieurs mois aux côtés de Pat Miletich. Il continue de s'entraîner, il continue de s'entraîner donc dans cette gym à Londres, à gagner du niveau, à combattre professionnellement. Et après être revenu à Londres, va d'ailleurs se passer une des anecdotes les plus hallucinantes de la carrière de Lee Murray, mais de toute façon, vous allez en avoir l'habitude, ça n'est qu'une série d'anecdotes hallucinantes, la vie de Lee Murray. C'est cette fameuse bagarre générale de 2002 après un UFC. Une bagarre générale devenue légendaire pour une raison qu'on va évoquer tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2002, il y a l'UFC qui vient à Londres pour la carte Carlos Newton versus Matt Hughes. Donc Matt Hughes, comme vous le savez maintenant, du coup, qui faisait partie du camp de Pat Miletich, etc. Donc l'équipe de Pat Miletich est à Londres. Donc forcément, c'est le moyen pour Lee Murray de les mettre bien comme eux l'ont mis bien. Donc il les accueille, il passe du temps avec eux, etc. Et après l'événement, après l'UFC, ils se retrouvent tous, mais vraiment là, faut se dire que c'est tous dans le sens les gens qui faisaient partie de l'événement de l'UFC. Donc il n'y avait pas que l'équipe de Lee Murray et Pat Miletich. Il y avait aussi Chuck Liddell, il y avait aussi Tito Ortiz. C'est faut se dire que c'était genre un rassemblement des plus grands tueurs à main nue de l'époque en fait du MMA. Et il y a à un moment donné un gars qui, pour jouer ou pour en tout cas comme ça pour déconner, grimpe en fait, saute sur le dos de Pat Miletich. Et un des amis de Lee Murray pense que c'est une attaque. Boum, le mec tombe directement, KO. Et ça déclenche une bagarre générale, mais monstrueuse. Il y a même, un gars qui à un moment donné va prendre une patate, il va tomber sur le bas-côté de la route, son bras qui est comme ça va se faire rouler dessus par un taxi, ça part dans tous les sens, Chuck Liddell fait partie de la mêlée et Chuck Liddell dira, donc on rappelle un Chuck Liddell qui à l'époque c'était un des mecs les plus terrifiants du monde, Chuck Liddell dira, c'était la folie, moi j'étais en mode, si je te connais pas, tu tomberas, donc en anglais, if I don't know you, I'm gonna put you down, donc Chuck Liddell, et il disait même qu'il mettait des spinning back fists dans la bagarre générale. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant, une espèce de montagne à la World War Z. Et dans cette mêlée, donc dont font partie Lee Murray et Chuck Liddell et Tito Ortiz, qui était donc à l'époque le champion light heavyweight de l'UFC. Donc à l'époque, c'était vraiment, il y avait le champion poids lourd et il y avait le champion juste en dessous, light heavyweight, moins de 93 kilos, mais qui faisait donc une centaine dans la vie de tous les jours. Le roi de cette catégorie, c'était Tito Ortiz. Et Lee Murray et Tito Ortiz se retrouvent face à face au milieu de la bagarre. Et apparemment, multiples témoins oculaires, dont Matt Hughes et Pat Miletich et quelques autres, donc ça fait partie des amis de Lee Murray, mais apparemment, c'est le consensus. Et Tito Ortiz n'a jamais démenti d'avoir été mis knockdown. C'est juste que pour Tito Ortiz, la manière dont ça s'est passé, c'est qu'il s'est pris un knockdown, il s'est relevé, et puis après, il y a eu du clinch, et puis il est reparti. Un knockdown éclair. Mais les autres témoignages disent que ce qui s'est passé, c'est que Tito Ortiz a poursuivi Lee Murray dans une allée, dans cette bagarre générale-là. Les deux se sont mis l'un en face de l'autre. Tito Ortiz aurait voulu mettre un crochet gauche à Lee Murray, qu'il aurait esquivé et lui aurait rendu une combinaison en anglaise de entre 3 et 5 coups, selon les témoins. Ce qui aurait mis knockdown, effectivement, Tito Ortiz. Lee Murray dit, ceux auxquels j'ai rajouté deux soccer kicks à la tête de Tito Ortiz pendant qu'il était encore au sol, avant de me faire écarter pour ne pas que ça aille plus loin par des collègues. Lee Murray, à ce moment-là, en fait, et ça participera de la raison pour laquelle l'UFC a porté également un intérêt à Lee Murray a mis KO dans un street fight, le champion light heavyweight, sachant qu'il combattait en 84 ou 70 kilos, Lee Murray, à l'époque, et il a mis KO dans un street fight, Tito Ortiz, qui était le champion du moment en light heavyweight. À partir de là, la légende de Lee Murray, qui était déjà bien établie à Londres, va faire le tour du monde. Cette histoire-là va devenir le bruit de couloir, mais que tout le monde connaît dans les cercles un petit peu des sports de combat. Après ça, en fait, l'UFC va donner sa chance, tout simplement, à Lee Murray. Il va lui donner sa chance, alors en 2004... Il va combattre Jorge Rivera, qui était un très bon combattant à l'époque. Et en fait, il va réussir à le soumettre au bout de deux minutes et quelques, il me semble. Et ça aurait dû propulser la carrière de Lee Murray, puisque donc c'est une victoire. Il est même rentré, en plus, il faisait du buzz, quoi. Il est même rentré avec la tenue de Hannibal Lecter dans la cage, etc. Enfin, c'était quelqu'un de très, très intense. Il aurait dû, après cette victoire-là, partir pour une carrière monstrueuse à l'UFC parce qu'il était beau gosse, parce qu'il était efficace, parce que il avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour que ça marche. Le truc, c'est que il a eu des problèmes quand il était plus jeune, donc il a été placé en centre de détention juvénile, mais il n'a jamais été mis en prison ensuite. C'est-à-dire que tous les policiers et tout le monde savaient que Lee Murray faisait partie et était même très très haut placé dans les gangs de Londres, de l'East London, mais il était toujours passé à travers les mailles du filet, en fait. Tous ses potes avaient fait de la prison, etc., 1 an, 2 ans, 3 ans, et Lee Murray, qui, c'est ce que disent ses collègues, était vraiment, vraiment malin pour tout ce qui était les affaires de la rue, ne se faisait jamais pincer, en fait. Même s'il y a, à un moment donné, même de la police qui a réussi à infiltrer quelqu'un dans le gang de Lee Murray, ça n'a même pas suffi, ils n'ont même pas réussi à avoir suffisamment de preuves pour l'incarcérer pour quoi que ce soit, en fait. Mais, quelques années plus tôt, il y a eu un incident, en fait, en Angleterre, où Lee Murray était avec sa femme enceinte et sa fille en voiture, et il y a un gars qui leur est rentré dedans, il aurait coupé la route, et ensuite il l'aurait poursuivi. Enfin, une situation sur la route, avec quelqu'un de visiblement agressif aussi. Lee Murray, à un moment donné, en a eu marre, il est sorti de la voiture pour régler son compte avec le monsieur, et en fait, il l'a mis dans le coma. Le mec a eu des, enfin, je sais plus combien de semaines d'arrêt de travail, enfin, vraiment, Lee Murray l'a démonté, en fait. Et le truc, c'est que, ensuite, ça a été au tribunal, et il a été innocenté, Lee Murray, parce qu'apparemment, le gars qui était responsable d'être rentré dans le 4x4 de Lee Murray, etc., était un récidiviste des accidents de la route et de road rage, en fait, comme on dit dans le monde anglophone. Donc, il a été innocenté, mais il y avait quand même ça, qui traînait quelque part dans le casier et dans le passif, disons, de Lee Murray, excuse ou non, mais les autorités britanniques, du coup, faisaient tout pour embêter, évidemment, les passages de Lee Murray aux États-Unis. Et même s'il n'avait été convaincu de rien jusqu'à présent, officiellement et après avoir été majeur, en fait, parce qu'avant, il y a eu des délits pour lesquels il a été condamné, il n'a pas pu retourner ensuite sur le territoire américain parce qu'il y a toujours eu des problèmes de visa. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer sa carrière, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de visa qui ont fait que, alors qu'il aurait dû décrocher un énorme contrat avec l'UFC, ben en fait, rien ne s'est fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en revanche, il a continué sa carrière de combattant pro, mais en Angleterre, et il a même combattu Anderson Silva, d'ailleurs, après son combat à l'UFC. Ce sera son dernier combat, mais encore une fois, mais complètement fou, donc Lee Murray va mettre un coup de pression à Anderson Silva à la pesée, mais comme vous n'en avez jamais vu, en fait. Alors, Anderson Silva n'est pas intimidé, mais le coup de pression, alors vous pouvez aller le voir, de toute façon, ça se trouve sur YouTube. À la pesée, c'est très très chaud, parce que Lee Murray a très envie de rentrer dans l'art d'Anderson Silva. C'est quelqu'un d'extrêmement intense, de toute façon, maintenant, vous l'avez compris. Et quelques combats auparavant, avait mis KO un des partenaires de Anderson Silva, Pelé. Et c'était donc très très tendu. Et à la pesée, le stare down, donc c'est-à-dire le face-à-face, il dure littéralement 3 minutes, en fait. C'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, Lee Murray et Anderson Silva vont rester en face. Ça se chauffe à un moment donné. Bon, bah, ok, ils sont front contre front, donc on les sépare. Le rideau tombe derrière. C'est le pandémonium. Et après, ils restent dans la même pièce. Les gens essayent de les écarter, mais ils restent bloqués, regard contre regard, mais vraiment, mais à l'ancienne. Avec, évidemment, comme c'est une langue qui est différente entre les deux, puisqu'Anderson Silva est brésilien, avec du trash talk de la part de Lee Murray, qui lui rappelle qu'il a éclaté son pote. Ben alors, il est où, José Pelé, il est où? Eh ben, il est là, il est au sol. Des insultes de tous les côtés. Et vous voyez l'intensité dans le regard de Lee Murray, c'est hallucinant. Pour autant, Anderson Silva n'est pas impressionné, évidemment. Le combat a lieu le lendemain. Néanmoins, ce qu'on peut dire à propos de ce combat-là, c'est que même si Anderson Silva a gagné, sans aucun doute, il a prouvé que c'était un meilleur artiste martial. En revanche, alors qu'Anderson Silva est connu pour, évidemment, rester debout et mettre KO tout le monde, eh ben, c'est lui qui a enclenché toutes les mises au sol. Alors, je sais pas ce qu'on doit en déduire. Est-ce qu'Anderson Silva s'était dit que c'était trop dangereux de rester debout avec Lee Murray? On ne saura jamais, parce que c'est aussi très possible qu'il se soit dit, je vais profiter du fait que je suis un meilleur artiste martial, mettre les takedowns, etc. Quoi qu'il en soit, Anderson Silva a dominé Lee Murray, en particulier avec des low kicks monstrueux pendant tout le combat. C'était le dernier combat de Lee Murray, un face-à-face avec Anderson Silva, qui donc juste après ça deviendra la légende vivante qu'on connaît aujourd'hui, champion UFC, etc. Ça, c'était au Cage Rage. Et on en arrive au chapitre numéro 3. Parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire là, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, eh ben, on n'en est même pas encore à la partie la plus dingue de la vie de Limeray, à savoir le braquage du centre de dépôt d'espèces bancaires Securitas. On est donc en 2005. Il a terminé sa carrière, il ne le sait pas encore, mais son dernier combat était celui contre Anderson Silva au Cage Rage. Il va se passer un événement qui va tout bouleverser dans la vie de Limeray et le faire se tourner vers ce fameux braquage pour gagner de l'argent différemment parce qu'il ne pourra plus combattre. On a dit donc qu'il ne pouvait plus aller aux États-Unis pour des problèmes de visa parce que les autorités britanniques lui mettent le plus de bâtons dans les roues possible lorsqu'il veut aller aux États-Unis avec, par rapport à son passif et les soupçons énormes qui pesaient sur lui sans même qu'il puisse être incarcéré ou jugé pour quoi que ce soit. Mais ce sera une énième bagarre de rue en fait qui va mettre fin à tout ça et qui va changer radicalement la vie de Limeray.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
En fait, en 2005, donc, il y a un moment donné où il est à l'extérieur d'un nightclub, le Funky Buddha. Et à l'extérieur de ce nightclub, il se fait embusquer par deux personnes qui essaient de le poignarder, par deux gars qui essaient de le poignarder. Et il arrive à se défendre, en fait. Il arrive à se défendre, il arrive à les repousser, il arrive à gérer le truc, mais quand même, au milieu de la bagarre, d'ailleurs, il se fait taillader, il perd, d'ailleurs, il se fait trancher le téton gauche. Mais il arrive à repousser les assaillants. Et une semaine plus tard, alors que c'est l'anniversaire d'un de ses coachs, les deux gars qui étaient venus pour essayer d'en découdre avec Limeray la semaine précédente reviennent à la charge avec plus de monde pour obtenir leur revanche et vraiment réussir à en finir avec lui. S'en suivra une mêlée, une nouvelle bagarre générale avec plus de 30 personnes et armes blanches, au cours de laquelle Limeray se fera poignarder à différents endroits du corps, dont une à la tête. Il pensera même au début en fait que c'est un coup qui s'est reçu. Il se fait poignarder à la tête, il se fait poignarder et c'est une artère qui se fait couper en fait dans un des coups de couteau. Pour un autre coup de couteau, c'est le poumon qui est perforé. Là, Limeray passe, il meurt en fait. Il meurt parce qu'il il est rushé à l'hôpital. Il doit être ressuscité 3 fois à l'hôpital tellement il a perdu de sang, tellement la condition est critique. Il va donc perdre 8 pintes de sang, donc en français l'équivalent de 4 litres de sang au cours de cette attaque. Et à partir de là, en fait, il va être tellement diminué physiquement qu'il ne reviendra plus au même niveau. Il ne reviendra plus jamais au même niveau et du coup, il va se tourner vers d'autres moyens de gagner de l'argent. Et dont ce fameux braquage qu'il va mettre au point, dont il sera le cerveau, le plus gros braquage de l'histoire de la Grande-Bretagne, où ils vont dérober avec son équipe 53 millions de livres en espèces, l'équivalent de 100 millions de dollars. Et c'est donc Limeray qui est à l'origine de ça. Alors la manière dont ici ils sont pris, c'est que Limeray et un ami à lui ont imaginé un plan qui était méticuleux du début à la fin. Le centre de dépôt des Securitas, c'est l'endroit où est stocké tout l'argent liquide avant de pouvoir être redistribué aux différentes banques. La manière dont ils vont s'y prendre, c'est qu'ils vont d'abord s'occuper du manager du dépôt, Colin Dixon. Ils vont se déguiser en policier, se faire maquiller par une maquilleuse professionnelle pour qu'il ne soit plus reconnaissable ensuite, par le témoignage donc de ce gars-là lorsqu'il sera libéré. Ils vont utiliser une fausse voiture de police. Une fois que Colin Dixon sortira après une journée de travail du dépôt Securitas pour rentrer chez lui, il va se faire mettre sur le bas-côté et arrêter en fait par une voiture de police qui met donc le gyrophare. Colin Dixon pense que c'est une simple opération de routine pour un phare cassé ou un truc comme ça. Évidemment, en fait, c'est Limeray, un de ses associés, déguisé en policier et maquillé, qui vont donc le mettre dans leur voiture de police, lui faire comprendre que ça n'est pas une opération de police de routine. Il intéresse Tony Raccaro parce que c'est un 9 mm. Et en fait, il est amené dans une ferme à côté de Londres Dans le même temps, en fait, une autre partie de l'équipe de Lee Murray va aller au domicile de Colin Dixon. Il y a sa femme et sa fille. Ils vont prétexter, en fait, eux aussi habillés en policier, que Colin Dixon a eu un accident de voiture et qu'il faut aller à l'hôpital pour le retrouver. Donc évidemment, ils mettent la femme et la fille dans un van et ils l'amènent eux aussi dans la fameuse ferme à côté de Londres. Une fois ici, ils font comprendre à Colin Dixon, avec sa famille, à bout portant évidemment avec des armes à feu, que si il veut que sa famille s'en sorte vivant, il va falloir coopérer. Ils amènent tout ce petit monde-là au dépôt Securitas, donc la femme, la fille, Colin Dixon et toute l'équipe de braqueurs, avec un camion, un énorme camion pour pouvoir prendre toutes les espèces une fois qu'ils auront mené à bien leur opération. Et une fois arrivés au dépôt, Colin Dixon fait rentrer tout le monde, explique aux employés que surtout, vraiment, ne déclenchez pas l'alarme et vraiment ne faites rien. Ils ont ma famille et ils n'hésiteront pas à la tuer si jamais vous faites quelque chose. L'équipe qui, au préalable, donc quelques mois plus tôt, avait réussi à faire rentrer un membre de leur équipe en tant qu'agent infiltré, en fait, après une interview de 10 minutes, le mec a été accepté parmi les employés du dépôt Securitas. Ce gars-là, donc, qui était infiltré, en fait, un jour, était venu avec une caméra derrière son bouton de ceinture pour pouvoir filmer un peu tous les lieux, en fait, pour que les braqueurs puissent se repérer et aller le plus vite possible pendant l'opération, pendant le braquage. Donc, il savait exactement ce qu'il faisait, où il fallait aller, comment ça se passait. Et donc, tout ça va très vite, en fait. Tout ça va très vite. Et au bout de plusieurs minutes, ils ont déjà eu accès au coffre. Ils ont vidé le plus d'argent en petites coupures qu'ils pouvaient, mis tout ça dans des grands sacs, mis tout ça dans des casiers et rempli leur camion à ras-bord du plus de billets possible. Leur seule erreur ce jour-là, en tout cas, ce sera qu'ils n'avaient pas prévu un camion plus grand, puisque donc, même en ayant rempli le camion à ras-bord de billets, en fait, ils n'ont pu vider que le quart du dépôt. Mais ça fera quand même donc cette fameuse somme de 53 millions de livres. En fait, ça se passe très bien. Jusque-là, ça se passe très bien. D'ailleurs, il n'y a aucun coup de feu qui est tiré. Tout se passe à merveille. Vraiment, leur plan fonctionne de A à Z pour ce qui est du braquage en lui-même. Mais en fait, comme le disait un des plus grands braqueurs d'ailleurs, qui était responsable de l'attaque du train en 63 et qui est ensuite devenu un analyste du crime et des braquages en Grande-Bretagne, il disait en fait le problème de beaucoup de braqueurs, c'est que ils font très bien la partie braquage. Et après, c'est n'importe quoi, en fait, pour ce qui est de comment est-ce qu'on gère l'argent, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le gang de Lee Murray, en fait. C'est-à-dire que, à partir de là, c'est la débandade. La police se met sur le coup, les gars sont efficaces, et au bout de 2 semaines seulement, en fait, il y a déjà une énorme partie du butin qui a été récupérée, tout le monde a été à peu près appréhendé. Il y a déjà des gars qui sont en prison et qui sont sur le point de prendre jusqu'à 140 années de prison. Enfin, seulement 15 jours après le braquage, qui était pourtant réglé comme du papier à musique, c'est la cacophonie. Après l'orchestre, la cacophonie, en fait. Et la fameuse maquilleuse qui était responsable de défigurer et de faire changer les traits de certains membres du gang pour ne pas qu'ils soient reconnaissables ensuite, va commencer à donner des informations parce qu'elle a peur pour elle, elle a peur pour sa vie aussi. À partir de là et de plusieurs autres preuves, comme les voitures qui ont été récupérées, comme les vannes qui ont été récupérées, etc., les preuves vont s'accumuler, tout le monde va se faire choper en fait petit à petit, et tout le monde, à part Lee Murray et Paul Allen, vont se retrouver sous les écrous, en fait. Ça va être vraiment réglé en l'espace de 2 semaines. Mais pour Lee Murray, ce sera pas aussi simple, en fait. Parce que si tous ses potes se font choper quasiment immédiatement, Lee Murray, lui, il va réussir, avec Paul Allen et 2 autres amis, à passer jusqu'au Maroc, en fait. Il va réussir à faire Angleterre, France, Hollande, Espagne et ensuite au Maroc. Avant même que la police n'ait pu le retrouver et l'arrêter, le récupérer et pour le traduire devant la justice. Donc en fait, alors que tous ses potes se sont fait choper, Lee Murray, Paul Allen et 2 autres amis, donc Paul Allen qui est un ami d'enfance et qui a participé à tout ça, sont au Maroc, s'achètent une villa en cash de 1 200 000 livres. Ils vivent la grande vie, ils s'achètent des voitures de sport, ils s'achètent des fringues de luxe. Dans la villa, ils ont la piscine, ils ont tout, ils ont même... Limeret se fait même peindre et sculpter une frise absolument dégueulasse de son combat à l'UFC. Donc, enfin, bon, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais franchement, là, le taf était vraiment sale. Hein. Qui que ce soit qui l'ait fait, c'est pas bon. Donc, ils vont vivre la grande vie, mais néanmoins, les autorités marocaines vont quand même réaliser un coup de filet et arrêter les quatre larrons alors qu'ils étaient dans un énorme complexe de supermarché, un mall, pour faire leurs emplettes, etc., comme d'habitude. Les autorités marocaines vont quand même arrêter tout ce petit monde pour possession de drogue, puisqu'en plus ils en auront sur eux ce jour-là. Ils vont ensuite aller faire une perquisition dans la villa achetée par Limeret. Ils vont trouver tout un tas de choses qui vont permettre de les incriminer. Et en fait, à partir de là, ça va être compliqué parce que il n'y a pas de processus facilité d'extradition à l'époque. En tout cas, c'est peut-être le cas aujourd'hui entre le Maroc et la Grande-Bretagne. Ce qui fait qu'ils vont être mis en prison, mais donc en prison au Maroc. Paul Allen, par exemple, l'ami de Limeret, va passer 20 mois en prison. Et ensuite, les autorités anglaises vont réussir à le faire extrader. Et donc, il va repartir, en plus, pareil, vraiment en grande pompe, avec des convois de 6 voitures, hélicoptères, etc. Enfin, vraiment traité comme le plus grand des grands membres du grand banditisme. Mais donc, Paul Allen va être extradé. Et le problème, c'est que pour Limeret, en fait, il a la double nationalité anglo-marocaine, britannique, enfin, marocaine et britannique. Parce que du coup, son père, Brahim, était marocain. Et en fait, c'est ce qui fait qu'il ne sera jamais extradé au Royaume-Uni. De 10 ans qu'il prendra initialement, en fait, sa peine va être allongée à 25 ans de prison. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, Limeret est en prison au Maroc. Alors évidemment, les histoires continuent. Hein. Il y a un moment donné où il a essayé de s'évader. Parce que du coup, des potes à lui lui ont glissé des petites scies à métaux dans des biscuits. Et du coup, il voulait s'en servir pour scier les barreaux et s'évader. Il avait même perdu du poids spécialement pour pouvoir s'infiltrer entre les barreaux de la prison. Mais ça n'a pas marché. Enfin, des histoires à la Limeret, en fait. Mais voilà. Encore aujourd'hui, en fait, à l'heure où on se parle, Limeret y est. Il est toujours détenu. Il est toujours au Maroc. Il y a Bloody Elbow, qui est un média américain, qui a réussi à avoir une interview avec lui il y a quelques années, en 2018. Et qui a pu parler en fait à Limeret et puis lui demander alors maintenant, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, quels sont tes objectifs, comment tu vois la vie en fait. Et Limeret disait, ben, entre autres, ben, évidemment en fait, ici la joie n'existe pas, donc le seul truc qui me fait survivre, c'est que ben, je me dis que je sortirai un jour. Limeret dit aussi, ben, maintenant il y a 3 choses qui me font rester en vie en fait et qui me font continuer à me battre. C'est 1. L'espoir de sortir un jour. 2. L'espoir de revoir ma famille et de pouvoir passer du temps avec eux et gagner et rattraper le temps perdu. Et 3. De devenir champion UFC. Après tout ça, il garde l'espoir et d'ailleurs il continue de s'entraîner en prison en fait. Il passe ses journées à s'entraîner. Il garde l'espoir de sortir un jour et de devenir champion UFC. C'est-à-dire que ce rêve-là, le seul rêve qui a jamais réussi en fait à le canaliser, pour lequel il a jamais réussi à rester sérieux, à vraiment faire quelque chose de bien, à vouloir ne pas causer de problème, et ben cet objectif-là qu'il a canalisé, qu'il a équilibré, il l'a toujours en fait. À 43 ans, il a toujours ce rêve de sortir de prison, de pouvoir raconter son histoire, de recombattre et de devenir champion UFC. Et voilà, maintenant vous savez qui est Limeret. Maintenant, vous savez qu'en fait, ce genre de personne, ça peut exister. Bon, il y en a une dans l'histoire, en fait. Hein. Mais combattant UFC, braqueur, responsable du plus gros casse de l'histoire de la Grande-Bretagne, un homme qui a mais plus d'anecdotes que de poils sur le corps, ça existe. C'est Limeret. Et on espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du Conte du Père Rusty. Il fallait absolument qu'on fasse quelque chose dessus parce que c'est beaucoup trop légendaire pour être laissé de côté, même si c'est un combattant qui n'a pas percé à proprement parler. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez le like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, ça nous aide énormément. Et puis, si vous voulez qu'on fasse un Conte du Père Rusty sur quelqu'un en particulier que vous avez en tête, laissez-les en suggestion en commentaire. Et puis, je vais vous laisser réfléchir sur cette histoire et puis l'ingérer un peu parce que c'est tellement du délire que ça va vous paraître fake. Mais donc, j'imagine que vous êtes déjà en train de regarder sur Internet, etc. Quoi qu'il en soit, à bientôt. pour un nouveau compte du Père Rusty, un nouveau podcast ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, bah, prenez soin de vous et à bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.